suis totalement satisfait.
Moi, c'est une demoiselle au pâtonnage, comme en combinant les deux statuts de l'imprécision, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à votre magazine, de votre fidélité donc à votre magazine d'échange citoyens, parole aux auditeurs sur la fréquence de la paix. L'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa est opérationnel depuis mars 2014. Lors de son inauguration, le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, avait indiqué que cet établissement hospitalier devrait avoir une offre de santé de qualité répondant aux normes internationales. Un an après sa mise en œuvre, une étudiante est décédée dans cette institution hospitalière dans des circonstances floues. Une situation qui a généré d'ailleurs des tensions entre les gestionnaires de l'hôpital et certaines autorités du secteur de la santé publique. Cette affaire relance donc, selon certains observateurs, les débats sur le regard de l'État congolais sur la gestion de l'administration des hôpitaux au public. Alors, comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous à l'adresse pa@traduit.net ou bien appelez-nous au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Merci à Sylvain Matundu qui assure la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie Feza Bongonda, un programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous découvrons les messages qui nous ont été envoyés par les auditeurs. Nous commençons par Ben Mambela de Kinshasa. Il y a un problème quant à la gestion des hôpitaux tenus non seulement par les Indiens, mais aussi tenus par les Chinois. Est-ce que ce sont véritablement des médecins? Voilà toute la problématique. L'État congolais doit faire l'expertise sur toute cette personne qui assure donc la gestion de la médecine donc dans ces hôpitaux, afin de connaître qui est qui et qui fait quoi. Voilà, il y a Gabriel Kitumaini de Beni qui dit ceci: le ministre de la Santé a promis, en croyant qu'il sera soutenu par les gouvernements, aussi il faudrait savoir que l'hôpital peut avoir tous les matériels disponibles, mais quand on est mourant, on meurt toujours. Alors Teddy Bikombo Rouara d'Ouvira: les choses sont claires. Le problème, ce sont ces gens qui ne maîtrisent pas la médecine. C'est une question de compétences. Le fait d'être blanc ne signifie pas, blanc ou rouge ne signifie pas connaître son domaine. Benny Linda Bekelassi, voilà, c'est Belle Linda Bekelassi. Le recrutement des personnels se fait normalement et on a choisi les différents hôpitaux à Kinshasa pour organiser les tests et à la fin, on a publié les noms des personnes retenues pour travailler dans cette institution. Mais pourquoi ce sont encore des étrangers qui viennent travailler et comment un aussi grand hôpital cherche à transférer un malade dans un autre camp? Un problème arrive. Une fois encore, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous allons prendre Daniel qui est à Lubumbashi. Daniel, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Comment vous commentez cette actualité, Daniel?
En tout cas, c'est un très très bon sujet. Moi, je suis dans le domaine sanitaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les hôpitaux de l'État, les hôpitaux publics, devraient être des hôpitaux sociaux. Donc, par le social, dans le temps, donc des hôpitaux où les frais sont très facilement. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Moi, je ne sais pas, l'hôpital du cinquantenaire là, c'est un hôpital social. Donc, c'est un hôpital bien réservé pour les gens qui ont un standing de vie élevé. Les hôpitaux que nous avons ici en province, le Lubumbashi, les hôpitaux de l'État, qu'on appelle les hôpitaux généraux.
Daniel, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez bouger un tout petit peu? Parce que là, vous sortez avec quelques interférences. Ça ne nous permet pas vraiment de vous suivre correctement.
C'est mieux que tu dis.
Oui, vous êtes dans une maison? Vous êtes dans une maison?
Bon, j'étais dans une voiture.
Voilà, si vous pouvez peut-être arrêter à un moment, comme ça, dès qu'on va terminer cet entretien, vous pouvez peut-être continuer à votre route.
Ok, ça va. Ça passe bien?
Oui, allez-y, on va...
Ok, en fait, je ne suis pas de l'état de être dans son état à conduire les états qui sont des hôpitaux qui appartiennent à l'État. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous faire dire? C'est que les hôpitaux de l'État fonctionnent avec des prix qui sont perçus sur place par le malade. Alors que, comme conséquence, c'est que les hôpitaux de l'État deviennent aussi comme des hôpitaux commerciales où les gens sont échangés par rapport à l'argent. Et si la personne n'a pas d'argent, il n'est pas soigné dans un hôpital de l'État. Et si la personne n'a pas cette possibilité de se faire soigner dans un hôpital de l'État, quelle est l'essence qui lui est réservée? Là où moi je ne comprends pas, c'est que ici, par exemple, à Lubumbashi, nous avons des polycliniques qui sont bien équipées avec tout le matériel. Donc les appareils de dialyse, les scanners, mais ces appareils-là, on ne les retrouve pas dans des hôpitaux de l'État. Et comment expliquer que c'est particulier avoir des moyens que l'État comprenait? Parce que ces hôpitaux-là sont bien équipés. Mais quand les hôpitaux de l'État ne sont pas bien équipés, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? La population basse, la population pauvre, ne peut pas accéder à des soins de qualité. Là où nous avons des taux de mortalité élevés, parce qu'une personne qui n'a pas de moyens ne peut être trouvée que par des cas congolais au travers de cette structure sanitaire. Or, cette structure sanitaire-là n'est pas à mesure de prendre en charge.
Oui, Daniel. Aujourd'hui, c'est vrai pour un bon nombre de gens, c'est vrai. Il existe ce que nous appelons la deuxième direction dans le ministère de la santé, de santé publique. Alors, cette deuxième direction a dans ses attributions le contrôle même du fonctionnement des hôpitaux publics. Aujourd'hui, l'invisibilité de cette structure, c'est ça qui fait que on constate quelques dérapages ou quelques problèmes au sein des institutions hospitalières publiques. Est-ce que vous partagez cet avis?
Comment est-ce que la deuxième direction peut contrôler les options qui ne sont pas? Parce que vous ne pouvez les contrôler que quand vous m'avez donné un fonds. Vous dites que Daniel Transition a payé. Autant de quantité de médicaments, tu vas payer tes appareils, tu vas payer ceci et cela. Mais en fait, si tu parles de données pour dire, est-ce que tu as ce que je t'ai demandé? Mais l'État congolais ne subventionne pas les hôpitaux généraux de référence. Vous voyez, là, c'est le problème. Et quand les hôpitaux-là ne sont pas financés dans ce cas-là, les hôpitaux fonctionnent avec les moyens de bord, avec l'argent de consultation, les hôpitaux administrés aux malades, donc les malades soient payés. Et ce n'est que ces fonds-là.
Alors, est-ce que Daniel, vous avez un commentaire aujourd'hui par rapport à ce qui s'est fait dans l'hôpital cinquantenaire, parce qu'il était prévu que un hôpital tertiaire ne puisse pas transférer les malades ailleurs, parce qu'il y a toutes les spécialités. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à tous ces transferts qui sont faits vers Ngaliema ou encore vers l'hôpital général ou encore à l'étranger?
Là on revient à la grande question de la qualité des personnels qui travaillent. Cher, vous pouvez avoir tout le matériel du monde, même les plus sophistiqués, mais si le personnel qui travaille dans cet hôpital de Saint-Denis n'est pas un personnel qualifié, eh bien, c'est la cause de ce genre de problème. Et tu sais que le personnel qui n'est pas qualifié ne pourra pas prendre en charge les cas qui sont au standing à laquelle l'hôpital a été placé. Et là, vous avez aussi le problème. L'hôpital, c'est qu'elle va être bien équipé. Mais si la qualité du personnel qui travaille n'est pas qualifiée, et là, on se pose le grand problème. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a continué la gestion de cet hôpital aux 25. C'est quelle est leur capacité scientifique? Et c'est là aussi le débat d'hier, peut-être pour terminer, c'est que nous voyons aussi à Lubumbashi avec des Chinois qui font des publicités dans les médias de leur structure sanitaire, qui sont des spécialistes, mais en réalité, ces gens-là n'ont pas la qualité requise ou la capacité requise pour pouvoir prendre en charge une maladie pour laquelle ils se classent. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons qu'ils transfèrent les malades en catégorie à l'hôpital, par exemple, c'est un des sources qui a fait que la personne puisse se faire passer. Là où la relance la problématique sur la qualité, même si on parle dans la situation.
Voilà, merci beaucoup, Daniel. Nous allons prendre Jean-Claude qui est à Kinshasa. Jean-Claude, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, vous avez la parole, Jean-Claude.
Bon, voilà, je ne serai pas tellement long. J'interviens juste pour essayer de tirer un peu la situation qui se passe au niveau du contrat avec l'hôpital Saint-Quentin. Parce que cela est de temps beaucoup plus grave, parce que l'État congolais qui a la raison de la réhabilitation de cet hôpital, que nous avons voulu tous que ce soit un hôpital de référence sur les normes internationales, comme ça a été dit au moment de l'inauguration. Malheureusement, nous étions en face d'une situation calamiteuse qui a fait l'objet de beaucoup de situations autour de la gestion de cet hôpital. Parce que dans les contrats programmes, je ne sais pas qu'est-ce que l'État congolais a fait réellement avec les Indiens qui sont aujourd'hui à la tête de cette institution médicale de haute facture. Parce que, souvenez-vous que moi j'ai un problème particulier, parce que j'ai une petite soeur qui avait été envoyée là-bas pour des soins appropriés. Il a passé tous ses examens, la radio, les consultations médicales et tout le reste. Depuis le mois de septembre jusqu'à ce jour, il n'y avait même pas la possibilité que le matériel soit là. Il n'y avait même pas d'intervention sur des prothèses alors qu'il devait passer une intervention orthopédique. Alors, il faut voir le montant à payer pour toutes ces histoires, et vous allez vous rendre compte à moi plus tard que le médecin qui était là dans le premier ordre sont rentrés en Inde, et les autres sont rentrés ici à Kinshasa. Tout ça, c'est un imbroglio tout à fait total. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que l'étudiante qui avait été internée là-bas a trouvé la mort dans des conditions un peu tellement floues comme vous avez fait l'état. Bon, c'est là, je crois que c'est une faiblesse de notre État. Et cela ne se justifie pas seulement du côté de cet hôpital, je crois que c'est toutes les institutions là où l'État congolais a l'ascendance.
Mais en fait, c'est ça les débats. Oui, c'est ça les débats du jour. Donc, nous partons de ce qui s'est passé au niveau du cinquantenaire pour étendre ça au niveau de d'autres institutions publiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on sait que il y a l'État a un regard sur la gestion de l'administration des hôpitaux publics au travers de sa deuxième direction au ministère de la Santé publique. Mais ce qui s'est fait sur le terrain, on a comme l'impression que cette direction est vraiment mise à l'écart.
Ah ben c'est ça justement, parce que les intérêts qui sont là, les intérêts qui sont en jeu, vous savez, il y a des gens qui sont les politiques, qui s'amènent au niveau, qui laissent les techniciens en dehors de ces genres de projets. Ils envoient les politiques pour aller discuter des problèmes qui ne regardent que leurs intérêts personnels. C'est là la difficulté, parce que si les politiques rentrent dans une situation où les techniciens devaient de normalement donner une expertise pour voir, parce que moi je vais vous demander, aujourd'hui, qui a fait aujourd'hui un état des lieux de savoir exactement quels vaut ces médecins qui sont là aujourd'hui, qui dans toutes ces cliniques, que ce soit du niveau des Chinois, que ce soit du niveau des Indiens, que ce soit n'importe quel niveau, alors que nous avons une expertise nationale.
Non, mais c'est
beaucoup de travail.
Oui, j'entends.
En réalité, ces gens-là, nous ne connaissons même pas d'où ils viennent et avec quel diplôme, quel ça fait cette expertise.
Oui,
j'entends. J'ai à côté pour laisser place maintenant aux politiques, pour essayer maintenant de discuter le problème d'intérêt personnel. C'est là la difficulté, mon cher.
Oui, mais Jean-Claude, je crois qu'il a été présenté clairement à la population la gestion de cet hôpital. C'est vrai, bon, comme nous l'avons dit, il y a la présence de la deuxième direction qui, en fait, assure l'administration, la gestion de l'administration des hôpitaux publics, entre autres l'hôpital de référence de Kinshasa et d'autres hôpitaux de référence à travers le pays. Mais pour les cas d'espèce, il s'agissait d'un partenariat. Lors de son inauguration, le ministre de la Santé a prouvé noir sur blanc qu'effectivement, il s'agissait d'un partenariat avec les Indiens. C'est que l'offre de santé, c'était une offre de qualité. C'est vrai que ça étonne plus d'un. Mais alors, c'est ce qui relance même le débat aujourd'hui. Est-ce que la gestion, elle est politique ou la gestion, elle est réellement entre les mains de la deuxième direction?
Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que réellement, ça échappe à la deuxième direction de santé, ça échappe. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez, vous faites une analyse, vous faites maintenant une enquête réelle, vous allez vous rendre compte que cette direction n'a même pas de données, aucune statistique, aucune statistique qui peut permettre aujourd'hui à savoir exactement ce qui se passe. Ces gens-là sont au-dessus de cette direction, alors qu'ils devaient prendre normalement des instructions et prendre normalement tout ce qui devait se faire, parce que l'État congolais devait donner à cette direction-là aujourd'hui la force de pouvoir aujourd'hui donner l'expertise valable pour la bonne gestion et la bonne masse. Malheureusement, la deuxième direction, et je vous lance un défi, vous connaissez maintenant, vous ne trouverez pas quelque chose qui soit de nature à arranger les problèmes. C'est là que se trouve dans tous les domaines. Ce n'est même pas le domaine de la santé. Mais si aujourd'hui nous faisons la discussion sur le domaine de la santé, c'est parce que c'est un aspect qui nous regarde tous, que ce soit vous, que ce soit moi, nous avons tous eu, bon, vous fondez beaucoup d'espoir pour l'avènement de cette affaire, mais malheureusement, on se retrouve dans une situation où on ne peut jamais rien dire. La preuve est que le jour où le ministre est passé là-bas, il a été vilipendé, il a été conduit par ces mêmes gens-là. Pourquoi la police est intervenue? Ah non, parce qu'on a jeté notre ministre. Pourquoi? Justement, c'est parce qu'il n'avait pas des données, parce qu'il n'a pas beaucoup de données.
Oui, mais Jean-Claude, dans ses prérogatives en tant que numéro un du secteur, c'est celui qui oriente en fait la politique du secteur. Il ne pouvait que descendre pour faire les constats.
Mais non, ça descend, c'est devenu au moment où il descend d'autorité. Mais lorsqu'il arrive là-bas et que cette autorité-là a été bafouée automatiquement devant des gens, devant témoins, devant tout le monde, vilipendés, tout ça, remis. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là savaient qu'eux, ils avaient quelque chose à dire. Qu'est-ce qui va se passer dans cet hôpital de cinquantenaire par rapport à la calamité qui se passe aujourd'hui avec la gestion actuelle? Qu'est-ce qui va se passer? Les Indiens vont claquer la porte et demain matin, l'hôpital risque de fermer, comme tant d'autres. C'est ce qui est gratuit.
Voilà. Donc, si je comprends bien, vous souhaiterez qu'on puisse vraiment définir clairement la gestion de l'administration des hôpitaux publics et particulièrement celle de l'hôpital du cinquantenaire pour permettre à ce que le partenariat soit un peu solide, hein, pour qu'il ne s'arrête pas en cours de route. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir appelé de Kinshasa. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous avons en direct de nos studios de Lubumbashi, Franck Ndou Nawej. Vous êtes notre invité. Bonjour, monsieur Franck.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capital.
Alors, vous êtes chargé des cours à l'école de santé publique à l'université de Lubumbashi et vous venez de publier un livre sur l'humanisation de l'hôpital, la qualité au cœur du management hospitalier. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer le contenu de cet ouvrage d'abord?
Merci. Enfin, le livre Contribution à la réflexion sur l'humanisation de l'hôpital, la qualité au cœur du management hospitalier. Et c'est un essai qui réfléchit sur la manière dont le patient doit être pris en charge dans nos institutions de santé. Puis globalement, l'ouvrage parle de la qualité des services que les hôpitaux sont amenés à fournir à leurs clients en prenant en compte les différents droits des patients, des clients qui fréquentent les institutions, et en prenant aussi en compte le besoin de prestataires de services qui sont chargés de fournir des soins à tous ces patients, à tous ces clients qui fréquentent leurs établissements.
Alors, vous avez suivi de près l'actualité, la situation qui a prévalu au niveau des cinquantenaires, qui aujourd'hui nous donne l'occasion de relancer les débats sur la gestion de l'administration des hôpitaux publics. Alors, comment vous commentez cette actualité et qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe concrètement dans les hôpitaux en ce qui concerne la gestion de l'administration?
Merci. Les événements qui se sont passés à Kinshasa, c'est d'abord des incidents qui sont tout à fait déplorables, parce qu'il y a eu mort d'homme. En fait, ça démontre qu'il y a quand même des problèmes dans la manière dont ces institutions sont gérées. Un problème majeur qui se pose, je ne connais pas très bien toute la situation qui se passe au niveau de l'hôpital du cinquantenaire, mais je sais qu'il y a le personnel est essentiellement indien et qu'il y a un problème de langue. Ce personnel parlerait anglais. Or, dans le droit des patients, il y a quand même un droit d'accessibilité. C'est vrai, il y a l'accessibilité financière ou géographique, mais lorsqu'il y a aussi des barrières linguistiques, le droit d'accès aux services devient perturbé pour les clients. Donc ça, c'est déjà un grand problème que les étudiants qui arrivent dans cet établissement puissent trouver une barrière linguistique dans une langue où ils ne savent pas s'exprimer. Et ça pose déjà un problème par rapport à la qualité des services qui sont en droit d'attendre de cet établissement. Alors, plus globalement, pour parler de l'administration de ces établissements, il y a, je crois que c'est Anil de Lubumbashi qui parlait déjà d'un problème aussi de la faiblesse des subventions qui sont allouées à ces hôpitaux publics, les subventions qui sont indispensables pour leur permettre justement de fonctionner. Or, privé des subventions, lorsque ces subventions sont très modiques ou irrégulièrement versées, ces hôpitaux ont du mal à fonctionner. La seule chose qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient d'aligner leur grille tarifaire sur celle des hôpitaux privés. Et agréer et aligner, pardon, la grille tarifaire sur celle des privés signifie donc augmenter le prix des prestations qu'ils sont censés fournir à la population. Et du coup, l'accessibilité financière de ces malades, dont la plupart sont des gens pauvres, devient problématique. Les gens ne savent même plus accéder à ces services. Et ne parlons même pas de la qualité des services, hein, dans beaucoup quand même des publics, oui, il y a beaucoup de problèmes. Parfois, les gens manquent de l'essentiel, de médicaments qui sont en charge, les équipements sont obsolètes ou inexistants, les infrastructures sont souvent désertées, le personnel est démotivé, donc il y a énormément de problèmes pour pouvoir produire des soins qui répondent vraiment aux aspirations légitimes, hein, des malades qui fréquentent ces
hôpitaux. Oui, oui, mais M. Franck, vous avez si bien dit, il y a des problèmes dans nos différents hôpitaux publics, mais que fait concrètement la deuxième direction?
La deuxième direction, au niveau de province ici, elle a un correspondant, en fait, c'est ce qu'on appelle le deuxième bureau. C'est lui qui organise, qui s'occupe un peu de la législation, du fonctionnement des établissements de soins de santé. Alors, il a plutôt un rôle de régulation. Hein. Ce n'est pas le deuxième bureau qui finance ces établissements. Encore que le deuxième bureau, il ne concerne pas que les établissements publics, hein. Il concerne tous les établissements de soins, qu'ils soient privés ou publics. Et lui, c'est juste un rôle de régulation.
Oui. Alors, mais on n'a pas vu, ce deuxième bureau lors des événements du cinquantenaire. On n'a pas senti, en fait, la régulation en question.
Justement, il est possible que la gestion de cet hôpital échappe complètement à cette direction, parce que je me demande sur quelle base ça fonctionne, hein, cet hôpital du cinquantenaire. Il y a peut-être d'autres raisons qui font
que... Oui, parce que finalement, on ne sait pas qui gère l'hôpital, parce que le ministre est passé par là. Oui, parce qu'on ne sait pas qui gère, parce que le ministre est passé par là, personne ne voulait l'entendre. La deuxième direction n'est pas impliquée dans la régulation de cet hôpital. Mais alors, en réalité, qui gère cet hôpital?
C'est ça toute la question. Ce sont les ministères de tutelle qui est normalement à même de pouvoir répondre à cette question. C'est assez curieux qu'un hôpital de ce niveau-là, un hôpital de niveau tertiaire d'une telle importance, puisse échapper à la gestion, en fait, au contrôle de la direction des hôpitaux. C'est assez curieux.
Alors aujourd'hui, M. Franck, que faut-il faire concrètement pour que l'État ait vraiment un regard sur la gestion de l'administration des hôpitaux publics? Et vous avez dit, le deuxième bureau ne travaille pas qu'avec les hôpitaux publics, mais il va encore plus loin même avec des hôpitaux privés. Est-ce qu'il faut vraiment améliorer les conditions de travail de ce bureau, de deuxième direction?
Oui, c'est important effectivement que la deuxième direction et la politique de ses moyens, qu'on puisse lui permettre d'exercer son rôle de contrôle, son rôle de régulation pour permettre aux établissements publics et privés d'ailleurs de notre pays de pouvoir fonctionner normalement.
Alors, vous avez parlé de l'humanisation de l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors, l'humanisation de l'hôpital concerne en fait la manière dont les soins de santé, ou plus globalement l'hôpital dans son ensemble, c'est-à-dire dans son fonctionnement, dans les infrastructures, dans les relations interpersonnelles, comment ça fonctionne pour que la dignité de la personne humaine, du malade, du client, puisse être au centre, hein, de tout ce qui se fait dans l'hôpital.
Alors, une erreur médicale qui survient, à qui incombe la responsabilité, par exemple?
Une erreur médicale, évidemment, c'est des questions assez délicates quand il y a une erreur médicale qui survient. Mais il est important, vous savez, au niveau de l'hôpital, que lorsque des soins de santé doivent être administrés à une personne humaine, pour que le patient puisse disposer du droit à l'information. C'est très important, ça veut dire que le prestataire doit pouvoir expliquer au patient ce qu'il veut faire sur son corps. Il doit pouvoir lui expliquer quel est le diagnostic, c'est quoi les problèmes qu'ils ont trouvés chez le malade, quels sont éventuellement les examens qu'ils sont en train de faire ou qu'ils veulent faire, quelles sont les différentes alternatives à un traitement ou un examen, quels sont les risques éventuels. De cette manière, lorsque le patient dispose de la pleine information, cela lui permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Alors, lorsqu'il y a des soins qui ont administré à un patient sans que celui-ci ne soit informé de leur utilité, de leur motivation et des risques éventuels, et qu'il y a un problème, en principe, l'hôpital a une responsabilité par rapport à cela.
Voilà, et quelle est la procédure à suivre au niveau du droit? Est-ce que la justice va intervenir ou carrément c'est la deuxième direction qui régule ou c'est les ministres qui pourraient intervenir?
Non, mais là, s'il y a une erreur médicale avec des séquelles ou si malheureusement il y a des faits, là, ça devient une question de justice. Ce n'est plus un problème de régulation du ministère ou de la direction des hôpitaux.
081-890-6315 pour votre intervention directe.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Nous poursuivons avec parole aux auditeurs sur la gestion de l'administration des hôpitaux publics. Nous venons de suivre là notre invité, Franck Dounaouège, qui est chargé des cours à l'école de santé publique. Nous vous recevons, nous accueillons Maître Sonville. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Ah, bonjour, M. Gilles. Bonjour à tous les milliers d'auditeurs de la radio Capi.
Votre point de vue?
Mon point de vue, d'abord, c'est une situation macabre qui est advenue à l'hôpital. Au moment de l'inauguration s'est passée avec pompe, on croyait peut-être solutionner un problème des Congolais démunis, puisque ce sont des soins appropriés qui devaient se passer au niveau démocratique du Congo, et qui pouvaient un peu épargner ceux qui n'ont pas besoin pour transférer les malades en dehors du Congo. Mais voilà que c'est une situation macabre qui vient d'advenir. En tout cas, je saisis d'abord cette opportunité d'abord pour présenter mes condoléances les plus affichées à la famille éprouvée, et j'estime que comme l'administration a péché, comme il y a eu perte en vie humaine, la famille de la victime doit saisir la justice pour qu'elle soit indemnisée. Puisqu'aujourd'hui, a enregistré une perte d'une vie citoyenne congolaise qui a été acheminée dans un hôpital soi-disant renommé, est-ce que par après qu'on puisse transférer ce corps à un autre hôpital pour chercher des choses appropriées? En tout cas, cela nous révolte et ça remet en cause la qualité même des médecins qui sont affectés à cette fin.
Ben oui, oh, oui, Maître Sonville, nous avons suivi vos prédécesseurs et ainsi que l'invité. Une erreur médicale peut survenir dans n'importe quelle institution hospitalière, ici au pays ou ailleurs.
Mais lorsque les erreurs deviennent récurrentes, j'estime que, d'après mon entendement, ce n'est pas le premier cas d'un malade qui a été transféré à l'hôpital de Liéman ou à un autre hôpital. Et comme les cas sont devenus fréquents et récurrents, ça prouve à suffisance que la qualité des infirmiers de médecins affectés à cette fin n'est pas appréciable. De deux, si la qualité n'est pas appréciable, et qu'est-ce qu'il peut prouver, comme il y a une perte en vie humaine, la justice doit requérir un médecin indépendant qui doit donner tous les signes possibles. Tous les signes possibles ayant occasionné cette mort-là. Mais au cas où on prouverait que c'est l'hôpital qui en est le responsable, on doit poursuivre cet hôpital-là. Parce qu'il y a une négligence. Ils ont attendu à ce que la situation se détériore pour transférer le monsieur-là hors cet hôpital, au moment de son inauguration. On nous a appris, nous avons tous suivi qu'il y avait un matériel sophistiqué, il y avait des médecins indiens. Est-ce qu'ici au Congo, il manque des qualités de médecins? Puisque M. J. hier. Je vous dirais que s'il y a des médecins qui sont appréciés à travers le monde, dans l'Afrique du Sud, en Zambie, quoi que ce soit, ce sont les médecins congolais. Comment le gouvernement congolais, qui a un partenariat, comme je viens de l'apprendre, peut-être avec les médecins, qui n'est pas fait recours aux médecins spécialisés, aux médecins qualifiés, Congolais qui peuvent administrer des bons soins.
Oui, maître Fonville, là, on a compris pour les cas de l'hôpital du cinquantenaire, mais si on fait faire un parallélisme avec les hôpitaux publics et d'autres hôpitaux, notamment l'hôpital des hôpitaux de référence, alors, quel est le regard que vous avez par rapport à la gestion de l'administration de ces hôpitaux-là?
Bon, vous savez, l'administration congolaise...
Parce que là aussi, il ne s'agit pas d'un partenariat, il y a des médecins congolais et qui tombent aussi sur le coup des erreurs médicales.
C'est-à-dire que tous les moyens ne sont pas mis à disposition de ceux qui sont affectés dans les hôpitaux de référence. Tous les moyens ne sont pas mis à leur disposition. Il y a d'abord manque de matériel, manque de moyens financiers, manque de bon encadrement. Ces médecins-là, ces infirmiers-là qui sont affectés dans des hôpitaux de référence, Ils font des sacrifices. Deux fois, ils n'ont même pas de transport pour se rendre à l'hôpital. Le salaire est uni, le salaire des femmes ne vient pas, ils se sacrifient. Or, cet hôpital de cinquantenaire-là, il y a tout. Il y a tous les moyens qui sont mis à leur disposition. Ils ne doivent que se surpasser. Or, M. J.R., je peux être un exemple. Avec l'hôpital, par exemple, de Lubumbashi, on a presque réinstallé un nouveau matériel après conseil la salle des opérations quoi que ce soit, sous les auspices du gouverneur Moïse Katumbi Chapo. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, lorsque les hôpitaux sont approvisionnés en matériel et qu'il ne reste que la compétence, là on peut condamner, mais aussi longtemps que le gouvernement est presque démissionné après conseil l'encadrement de ces médecins-là, de ces imprimés-là. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Des fois, dans ces hôpitaux-là, il manque même de médicaments. Même l'aspirine ici, même l'aspirine, ça manque. Il faudrait qu'on puisse te prescrire une ordonnance et qu'on aille chercher le médicament à l'extérieur. Et si tu n'as pas de moyens, tu meurs. Il y a des fois, les médecins ne font pas à dessein dans des hôpitaux de référence. Ils ne font pas à dessein, soi-disant, leur accuser de non-assistance à personne à deuxième. Non, les conditions dans lesquelles ces médecins-là travaillent sont déplorables. La population congolaise, elle est sacrifiée par le gouvernement.
Merci beaucoup, Maître Sauville. Là, vous évoquez, en tout cas, les conditions dans lesquelles travaille le médecin dans les différents hôpitaux publics. Et vous plaidez pour que ces conditions soient améliorées, cela pourrait quand même donner des résultats et ça pourrait aussi aider la population à accéder aux soins de santé et de qualité, des soins appropriés. Merci beaucoup. Roger, vous êtes à l'UPC à Kinshasa. Bonjour Roger.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous avez la parole Roger. Quel est votre commentaire?
Ah, le problème d'abord, c'est les langues. Le monsieur, l'administrateur de notre hôpital du cinquantenaire ne connaît pas vraiment le français. Il est là seulement pour l'anglais et leur langue indienne. Maintenant, tous qui travaillent avec lui, tous sont des anglophones. Maintenant, le deuxième problème que nous avons, c'est le problème des récompenses dans notre pays. Quand nous étions là, ce que nous avons constaté, le ministre a agi en tant que chef, mais en amenant l'administrateur au cachot, il y a un leader de ce pays qui est venu pour dire non, il sort. Ce sont ces gens-là qui sont derrière le monsieur pour lui donner l'entêtement. Donc, le vrai problème...
Roger, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une idée comment fonctionne l'administration des hôpitaux publics? Est-ce que vous pouvez nous dire, Roger, si vous avez une idée sur la gestion de l'administration des hôpitaux publics, comment ça fonctionne?
Ça fonctionne en désordre.
Merci beaucoup. Docteur Richard, vous êtes ancien médecin de terrain. Vous êtes avec nous? Bonjour.
Bonjour, je suis avec vous, JR, et bonjour à tout le monde. Alors, condoléances pour, aux familles qui sont affectées par cet événement malheureux qu'on est en train de répéter au niveau des antennes. Voilà. Alors, moi, je voudrais dire ceci. Premièrement, j'avais aimé que l'association des consommateurs parle. C'est, ça montre que les Congolais ne sont pas organisés. Cette association pouvait descendre au niveau de l'hôpital, là où il y a eu cet incident, et mener des enquêtes comme regroupement des consommateurs. Parce que les soins de santé, c'est aussi un bien, un service, je ne sais pas, comme le gâteau, tout ça, un bien comme le gâteau qu'on consomme. J'avais aimé entendre ça, mais cette société des consommateurs est restée muette. Maintenant, ce sont les individus qui parlent. Félicitations à tous ceux qui parlent. Et ils mettent, comme on dit, le doigt dans la plaie pimentée. Alors, moi, je voudrais répondre par rapport aux zones d'ombre que j'ai senties sur les antennes. Quand on parle de la gestion administrative d'un hôpital, on parle de l'administration. Mais quand on parle de la gestion globale de l'hôpital, là où il y a la gestion des soins de santé et la gestion administrative, l'administrative qui comprend donc ce que nous appelons le papier.
Okay?
Le papier, c'est élu par le gestionnaire administrateur qui fait partie de la direction avec le médecin directeur.
Mm-hmm.
Et en dessous de la direction, il y a le staff médical qui réunit les médecins et ces médecins balisent les soins de santé au jour le jour par rapport aux statistiques des pathologies qui arrivent et collabore aussi avec la direction de nursing pour la prise en charge infirmier. Et, alors, les deux directions, nursing avec staff médical, donnent leurs résultats à la direction de la pharmacie qui prépare les approvisionnements par rapport aux pathologies qu'on voit là, qui prépare aussi les approvisionnements donc en médicaments et en produits de laboratoire, etc. Alors, pour les équipements, je crois, les équipements doivent être des équipements qui sont conséquents aux pathologies du coin. Il ne faut pas mettre dans un hôpital, par exemple, l'échographie, là où il n'y a pas de courant. Là aussi, là où il n'y a pas de problème qui demande foncièrement l'échographie. Parce que tout ne peut pas être regardé avec l'échographie. Le diagnostic bien mené peut suffire. Alors, là où je veux aussi aider, la deuxième direction, c'est une question normative. Ça donne les normes et puis il y a le corps des inspecteurs qui peuvent passer, etc. Comme nous sommes dans la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa peut contrôler un hôpital, même les cliniques universitaires en urgence, pour voir comment la population de la ville est soignée là-bas.
Mmh.
Voilà. Voilà comment je balise un peu la route pour...
Il y a l'autre invité qui a dit...
En ce qui concerne, par exemple... Parce que j'ai dirigé l'hôpital général de référence de Lukula. Par exemple, l'approvisionnement en médicaments, je vais vous dire réellement que j'hypothéquais ma liberté pour aller m'approvisionner en bon pour auprès des dépositaires. Ça, j'ai fait ça aussi quand j'ai assumé plusieurs fois l'intérim à l'hôpital de Mwanda sous la supervision du docteur Bien que je salue, qui me laissait l'intérim. Donc, ce monsieur-là,
docteur Richard,
s'approvisionner un médicament à gauche à droite.
Oui, docteur Richard, s'il vous plaît. Docteur Richard, parce que nous avons suivi tout à l'heure notre invité qui a en fait évoqué les attributions de la deuxième direction ou encore deuxième bureau qui a en fait la responsabilité de réguler l'administration des hôpitaux publics. Alors, vous avez évoqué dans tout l'ensemble comment fonctionne cette administration.
Oui.
Il y a deux temps, donc l'administration gestionnaire qui prend en compte les aspects administratifs, et d'autres, comme c'est les staff médical composé des médecins, et qui assurent donc ces soins administrés aux malades. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, par rapport à la situation qui a prévalu à l'hôpital du Cinquantenaire, qui nous a permis d'ailleurs d'étendre des débats sur d'autres hôpitaux publics. C'est vrai, on s'est dit, est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a une erreur médicale, par exemple, il faut que la deuxième direction intervienne, ou bien c'est le ministre, ou bien c'est l'hôpital qui doit répondre devant la justice.
Lorsqu'il y a une erreur médicale, la première chose à faire, c'est que le médecin légiste se saisit de ce dossier et définit
l'erreur et présente ce dossier au staff médical qui en prend acte. Maintenant, si il y a des poursuites, on tiendra compte de ce que le législateur a vu. Et qui va saisir la justice? Ceux qui veulent bien saisir la justice. C'est ça. Moi, je ne vois pas comment est-ce que la deuxième direction viendra se saisir d'un dossier technique lorsque cette direction est formative. C'est pour les normes. Si une pince a manqué, est-ce que c'est la deuxième direction qui viendra dire qu'une pince avait manqué ici?
Et le ministre?
Si,
et le ministre,
la précision avait manqué.
Oui,
c'est la deuxième direction qui viendra dire pourquoi la précision a manqué ici. Je crois, au départ déjà, une c'est tout, c'est-à-dire au niveau de cet hôpital, quelle est l'organisation qui fait le constat de manque de ceci? C'est cela au quotidien. Voilà comment nous avons géré les hôpitaux que nous avons dirigés. C'est au quotidien qu'on sait que nous ne sommes pas capables de ceci, nous sommes capables de cela. C'est au quotidien.
Mmh.
Voilà.
Mais, parce que ça...
mais non, les consommateurs, s'ils veulent mettre leur nez là-dedans, c'est leur droit. Voilà. Ne croyez pas qu'une direction nationale doit descendre dans une formation médicale pour se rendre compte que la pince a manqué. Non.
Voilà, merci beaucoup.
Il y a eu certains tisans que nous maîtrisons mal les contours, parce qu'aussi le nom de son excellence, de M. le ministre, qui est passé par là pour regarder, parce que comme responsable numéro 1 de son santé, il a été interpellé dans son fort intérieur. Je le félicite de le saluer à ce sujet. Ce n'était pas d'abord sa mission, mais il a fait sa propre humain. C'est un humain qu'on doit féliciter, il est descendu se rendre compte du bruit qui est passé par là. Mais maintenant, pour la gestion au quotidien, il y a la direction, avec toutes les structures que j'ai données, peut-être par défaut, il y a les consommateurs qui doivent être là aussi au quotidien. Parce que c'est une force qui peut amener une institution de santé à redresser, comme on dit, la colonne
vertébrale. Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir appelé. On va prendre Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour à Jean Ngembo et bonjour aussi à l'invité qui intervient depuis le Lubumbashi.
Voilà, vous avez la parole, Maurice, après avoir écouté vos prédécesseurs.
Je pense que les prédécesseurs ont raison. En fait, ils ont dit des spécialistes en la matière, notamment docteur Richard, qui est le numéroïste, qui a fait quand même un état de lieu par rapport à la gestion de structures hospitalières. Mais moi, je voudrais faire un état de lieu, en fait, particulièrement de cet hôpital-là, dit cinquantenaire. Cet hôpital a englouti plus ou moins 100 millions de dollars américains. Déjà par ce chiffre, les montants vertigineux qui a été consacré à la réhabilitation ou à la dotation en fait, de l'équipement de cette structure hospitalière laisse déjà en fait à remettre en fait en doute ou à s'interroger même sur ce fonds. Et je vous dis même que l'Azado qui a produit un rapport sur la surfacturation des infrastructures devrait aussi s'attirer en fait sur cet hôpital pour bien comprendre les 100 millions réellement investis dans les cadres en fait, de la construction de ces buildings. Alors, depuis l'investissement en fait, de fonds, nous avions suivi la propagande qui a entouré en fait, cet hôpital-là, à l'île cinquantenaire. Nous avions entendu les gens dire que le fonctionnement effectif de cet hôpital, on va réduire les évacuations qui sont enfermées de nos compatriotes vers l'étranger pour des soins médicaux. Mais il n'y a pas très longtemps, vous avez vu un grand monsieur qui est décédé, qui a son âme, M. Kergiano, qui est passé par deux ou trois fois par cet hôpital, et vous avez vu le résultat. Et de deux, récemment, nous avions déploré les cas de notre compatriote de l'UPC, dont les décès est intervenu dans des circonstances jusque-là non élucidées. Et qui fait, en fait, aujourd'hui, qu'il est même en question, en cause même l'existence de cette structure qui engloutit plus de 100 millions ou plus de 100 millions de dollars américains. Alors, est-ce que les Congolais avaient besoin d'avoir un hôpital de 100 millions? 100 millions représentent plus ou moins, je crois, 5% du budget national. Alors, lorsqu'on va investir 100 millions, pendant que certains points, vous avez suivi, j'ai bien suivi votre invité depuis Lubumbashi, certains points de la République, où on manque même de comment on appelle, des centres de santé, qui peuvent en fait donner de soins minimum, hein, ou des femmes enceintes qui vont parcourir des kilomètres. Est-ce que vraiment c'était important d'investir 100 millions, un investissement de prestige vertigineux pour un hôpital qui aujourd'hui devient un mouroir, un musée, où les gens ne comprennent pas exactement.
Oui, Maurice, tout de même, n'exagérons pas, parce qu'il y a eu un cas de décès depuis, en tout cas, l'inauguration de cet hôpital. Je sais qu'on a enregistré jusque-là un seul décès qui a même soulevé les tollés par rapport à la gestion de l'administration. Nous avons vu les ministres intervenir et tant d'autres gestionnaires, autorités donc du secteur. Mais il ne faut pas gonfler les chiffres ou encore exagérer un peu avec des faits qui ne sont pas avérés, quoi.
Quels sont les faits qui ne sont pas avérés?
Voilà. Donc, parce que quand vous dites ça devient un mouroir, c'est comme si on enregistrait les morts à longueur de journée.
Ah, mais on ne peut pas comprendre qu'une femme, par exemple, le cas est le plus récent, qu'une femme qui va.
Voilà, un seul cas, est-ce que vous en connaissez un autre? Oui, est-ce que Maurice, vous en connaissez un autre cas, à part ce cas de décès?
En fait, c'est déjà un mauvais exemple, parce que cet hôpital, par rapport à son existence, on l'a pas encore, je crois, deux ans.
Donc, comme vous dites, voilà, comme personne n'a désigné, c'est pourquoi nous avons même souhaité à l'époque, nous avions souhaité, avec la permission du ministre du secteur, pour qu'il y ait quelqu'un qui pourrait représenter donc le ministère. Bon, malheureusement, le ministre n'est pas sur place au pays, selon ce qu'il nous a dit. Sinon, lui-même, il pouvait intervenir pour éclairer un peu l'opinion, éclairer la lanterne des uns et des autres par rapport à cette question. Voilà, donc, et ce qui s'était passé, Maurice.
Mais voilà. En fait, nous avions suivi, comme vous, à travers les médias, d'abord laquelle qui a été réservée à notre ministre. Vous pouvez comprendre déjà. On ne sait pas dans quel pays du monde où les numéros 1 de la santé publique soient être accueillis par, par une gifle comme certains l'ont prétendu dire. Hein? Donc, c'est pour dire qu'ils n'ont même ce gouvernement n'a même pas les contrôles de cet hôpital-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre, admettre qu'un ministre de la Santé, un ministre national, qui va s'enquérir de la situation d'un décès, en fait, d'hôpital, et ce ministre-là soit accueilli de la manière dont tout le monde est fait. Donc, ça, c'est déjà un problème, ça relève, en fait, d'une certaine vraiment, maîtrise, donc manque de maîtrise, en fait, de gestion de certaines structures. Il y a par exemple le problème en fait des barrières linguistiques soulevées par notre invité depuis le Lubumbashi. On ne peut pas mettre dans une structure où on va voir là-bas des Anglais qui sont des Indiens qui vous parlent que l'anglais et qui ne savent pas communiquer avec des malades.
Maurice, c'est contradictoire parce que ces derniers temps, nous avons enregistré un taux de transfert de malades en Inde, un taux très élevé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, si vous allez dans plusieurs hôpitaux, avant même la construction de cet hôpital du cinquantenaire, on a assisté à des transferts, en tout cas en cascade, hein, des transferts à un nombre un peu élevé vers l'Inde. Voilà, il y a une culture, il y a une habitude qui s'est créée dans la gestion des malades en RDC, le transfert à tout bout de champ, mais je crois que la construction de cet hôpital, c'était pour, en fait, arrêter cette hémorragie rapidement. Mais bon, malheureusement, on ne sait pas dire exactement quel est le résultat à ces jours, parce que une année après, on peut peut-être faire un bilan annuel, mais pas un bilan définitif. Voilà, donc, comme pour dire, c'est une situation qui peut être corrigée dans les jours à venir. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé. 081-890-6315 pour votre intervention. Direct.
Au Capitan, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi mégamix de 19h à minuit. Au Capitan New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais ici et d'ailleurs.
parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons en ligne Franck Ndou Nawej, qui est notre invité, chargé des cours à l'école des santé publique à l'université de Lubumbashi. Monsieur Franck, vous êtes encore avec nous en ligne?
Oui, je suis là, monsieur.
Voilà, vous avez suivi cette longue série des auditeurs. Que répondez-vous aux uns et aux autres? C'est vrai qu'il y a beaucoup de passion dans ces débats. D'aucuns ne comprennent pas réellement le mécanisme mis en place pour la gestion de l'administration des hôpitaux publics. D'autres, par contre, estiment que c'est un peu exagéré, et c'était pas opportun de pouvoir mettre en œuvre cet hôpital tertiaire, comme vous l'avez appelé. Alors, comment vous réagissez?
Merci beaucoup. Alors, je comprends effectivement qu'il y a de la pression. C'est normal quand il y a mort d'homme. Tout de suite, les gens veulent comprendre ce qui s'est passé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les erreurs médicales, il y en a tous les jours dans les établissements de santé, malheureusement. Pour vous donner un chiffre, rien qu'aux États-Unis, où les statistiques sont plus ou moins bien tenues, on parle de plusieurs dizaines de milliers de morts par an, occasionnées par des erreurs médicales. Alors, au niveau des chez nous, on n'a pas de statistiques fiables, mais lorsqu'on observe les conditions de travail dans lesquelles presque les médecins, nos infirmiers et les autres techniciens, dans lesquels les patients sont reçus et traités, il n'est pas exclu qu'il y ait aussi un nombre assez important des erreurs médicales, malheureusement. Alors, il y a un élément que j'ai voulu ajouter par rapport à l'hôpital du cinquantenaire. Vous savez, M. Gier, à l'extérieur du pays, notamment dans la zone australe ici, dans les pays de l'Afrique australe, beaucoup de nos compatriotes, médecins ou infirmiers qui passent, sont très appréciés. Et lorsque vous essayez de parler avec ces compatriotes, ils vous disent qu'au pays ici, à l'RDC, ce qui leur manque, ce sont les infrastructures, ce sont les équipements médicaux. Alors, avec l'hôpital du cinquantenaire, nous avons une chance unique d'avoir un plateau technique aussi élevé. Le ministre de la Santé l'a reconnu. Effectivement, cet hôpital dispose d'un équipement technique qui est très élevé. Et nous avons aussi dans ce pays des ressources humaines compétentes. On a des médecins compétents, des administrateurs gestionnaires compétents, des infirmiers compétents, etc. Et donc, normalement, avec des équipements médicaux disponibles, avec un personnel compétent, on devrait avoir normalement un fonctionnement harmonieux de cet hôpital. Alors, s'il y a des problèmes, c'est que c'est peut-être au niveau de la coordination, la manière dont on doit coordonner les personnes et les matériels, les équipements pour pouvoir produire des services de qualité. Alors, il y a un autre élément dont vous parliez tout à l'heure dans... Lorsqu'intervenait M. Maurice, vous avez parlé du nombre élevé des transferts des malades vers l'Inde. Je ne sais pas, ces malades transitent par l'hôpital du cinquantenaire ou si vous parlez de la situation plus globale.
La situation globale avant même la construction de l'hôpital du cinquantenaire.
Parce que l'hôpital, à ce niveau-là, comme on disait, à un niveau tertiaire, il n'est plus un lieu pour transférer encore des malades vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que des cas ultimes devraient être pris en charge, justement pour réduire qu'on puisse transférer des malades à l'extérieur. Et puis cet hôpital, à ce niveau-là, ne peut pas devenir, je mets entre guillemets, un courtier des soins. C'est-à-dire que cet hôpital, avec tout ce personnel indien, ne peut pas se transformer en un service de courtage pour recruter des malades congolais et les amener en Inde. Donc là aussi, c'est important qu'on puisse...
Voilà, merci beaucoup Franck, nous vous gardons toujours en ligne pour prendre Blanchard qui est à Kinshasa et Godefroy à Chimbulu. Blanchard, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Gier, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio.
Oui, comment vous commentez cette actualité qui fait débat aujourd'hui dans Parole aux auditeurs?
Vraiment, le sujet est bien bien posé Monsieur Gier. Pourquoi nous le disons? Puisque nous qui sommes ici à Kinshasa, nous le constatons. Nous sommes un peu plus proches de l'hôpital du cinquantenaire que ce qui nous attend de loin à l'intérieur, par exemple, du pays. Alors, je voulais m'atteler sur trois problèmes. les premiers presque tous les auditeurs en ont parlé en long et en large par rapport à la gestion. Mais moi, je voulais ajouter une idée. D'abord, avant d'ajouter l'idée, je me posais la question. Est-ce que c'est un problème de la compétence qui manque aux Congolais? C'est ce qui a poussé le gouvernement congolais de mettre en place les expatriés pour y travailler? Ou bien c'est un autre problème? Est-ce que c'est la même gestion? Si c'est la même gestion, est-ce que l'autorité en place ne pourra pas s'y prendre pour bien connaître comment est-ce qu'elle fonctionne? Et si vous voulez, si par exemple l'État décidait à ce que les expatriés continuent à y travailler, il y aura des conséquences. Je vais l'illustrer. Imaginez quelqu'un qui quitte le Bandundu, il vient ici pour se faire soigner à l'hôpital du cinquantenaire. Et là, sa langue, c'est une langue locale, une langue maternelle, par exemple, les Kikongo.
Oui, mais Blanchard, permettez-moi quand même de vous couper tout de suite. Est-ce que la construction de l'hôpital ou la mise en œuvre de l'hôpital du cinquantenaire, selon certains observateurs, ne serait-elle pas une réponse à l'effet de la mode? Parce que de plus en plus, on avait constaté quand même, comme je l'ai dit tantôt, avant la construction de cet hôpital, il y avait pas mal de transferts vers des malades vers l'Inde, parce qu'il y avait des cas que nos hôpitaux ne pouvait pas, au fait, résoudre facilement. Alors, l'État congolais, pour répondre à ses besoins, il a mis sous pied cet hôpital.
Mais, même s'il faut parler de cette mort, c'est félicité. Nous félicitons le gouvernement pour ces pas-là. Mais les fonds qui est là, il est pour. On a demandé à ce que la consultation soit fixée à $20. Le coût est très trop élevé par rapport à ce que gagnent les Congolais. Et le Congolais moyen sera à mesure, M. Gilles. Voilà. Vous voyez cette différence limitée.
Oui,
le coût n'est pas accessible aux Congolais.
Oui, on va pas
pour cette raison-là, il serait nié de mettre les Congolais de travailler à la place. Pourquoi? Il y a trop de partialités à l'hôpital. Moi, je connais certains amis qui ont eu à passer des tests. Ils ont même réussi, mais ils n'ont pas été rappelés jusqu'alors.
Voilà, ça fait un autre débat, parce que comme l'a dit un des auditeurs tout à l'heure, la gestion de l'administration passe par deux points. Donc, il y a la gestion de l'administration, ainsi que l'aspect médical qui est géré par les staffs médicaux. Donc, le débat là, c'est-à-dire le recrutement. Voilà, il y a un service de régulation. Il y a le docteur Richard qui a parlé d'un service normatif. Bon, c'est un débat de médecins. Nous ne maîtrisons pas tous ces termes. Merci beaucoup à Blanchard d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Nous rappelons, chers auditeurs, que l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa est opérationnel depuis mars 2014. Lors de son inauguration, le ministre de la Santé, Félix Kabangé-Numbi, avait indiqué que cet établissement hospitalier devrait avoir une offre de santé de qualité, répondant aux normes internationales. Alors, un an après sa mise en œuvre, une étudiante est décédée dans cette institution hospitalière dans des circonstances un peu floues. Donc, nous en débattons aujourd'hui en relançant les débats sur la gestion de l'administration des hôpitaux publics. 081 890 7315 pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Voilà, bienvenue à tous dans cette émission Parole aux auditeurs. Le regard de l'État congolais sur la gestion de l'administration des hôpitaux publics, c'est qui est au centre de ces débats de parole aux auditeurs. Godefroy, vous êtes à Chimboulou, bonjour. Godefroy, vous êtes avec nous? On va prendre plutôt Ilunga, qui est à Dilolo. Ilunga, vous êtes avec nous?
Ah oui, bonjour.
Voilà, Ilunga, vous avez la parole.
Merci beaucoup, M. Dier, la parole à vous.
S'il vous plaît, Ilunga, est-ce que vous pouvez parler un peu fort, là, parce que là, on s'est dit à peine.
Oui, bon, merci beaucoup, M. J.R., de la parole nous accorder, et aussi nos condoléances aux familles que vous pouvez. M. J.R., je voudrais un peu demander, on a suivi les débats tout au début de l'émission jusqu'à ce moment. On voudrait un peu demander, est-ce que l'État existe réellement dans ce pays? Est-ce que, en voyant la gestion de l'hôpital de Lille et ici, c'est comme si l'État n'existait pas dans ce contrées? Parce que à 10 km ici, en Angola, lorsque vous vous rendez là, ce sont les médecins congolais qui l'ont sollicité. Ils vont travailler là-bas et ils rentrent. Mais dans notre hôpital, lorsque vous y arrivez, vraiment c'est du fiasco. En commençant par le bâtiment, la façon dont ils sont en train de gérer les bâtiments, et aussi, il manque même de médicaments dans quel état où nous nous retrouvons, ou si cet hôpital est géré par l'État, ou bien c'est obligé à ce niveau. Parce que, payer même, en fait, la sirine ici, il faut aller ailleurs dans des pharmacies, ça et là. Et des fois, vous allez vous payer les médicaments ailleurs, vous trouvez la personne, elle est déjà morte. Bon, je ne sais pas. Et ici, comme c'est un peu au village, bon, les gens ont peur de faire arrêter un médecin et ils se disent, bon, si tu le faisais arrêter, des fois, un jour, tu pourras arriver là, personne ne pourra vraiment te prendre à terre. Alors, on se demande si est seulement si, dans ce pays, l'État existe, et si est seulement si le ministre a été répondu. Bon, je ne sais pas si c'est le critère, ça, vraiment, c'est notre inquiétude.
Voilà, merci beaucoup Ilunga. Nous revenons à vous, Franck Ndou Nawej. Vous avez suivi quand même la deuxième série des auditeurs. Est-ce qu'il y a un commentaire de plus?
Je voudrais prendre justement les commentaires de Ilunga qui vous a fait de Diloulo. En fait, l'histoire qu'il raconte là, c'est vraiment le quotidien, malheureusement, pour beaucoup d'établissements publics. Moi-même, j'ai déjà assisté à un patient, on l'amène aux urgences, et puis finalement, le personnel n'a rien. Ils n'ont même pas de médicaments, même pas de seringues. On renvoie les accompagnants, donc les proches du patient, pour aller dans une pharmacie, chercher tel médicament ou tel autre, et quand ils arrivent, effectivement, ils trouvent que la personne est décédée. Donc là aussi, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que dans les hôpitaux publics, les prestataires, c'est-à-dire le personnel médical, le personnel infirmier et tous les autres, ils ont deux besoins que les hôpitaux doivent pouvoir accomplir pour leur permettre de faire leur travail. Le personnel a notamment le besoin de supervision et de gestion facilitative. Ce sont des personnes qui doivent être coachées au quotidien par leurs responsables pour les motiver et les rendre performants. Ils ont besoin de l'information, de la formation et du développement. Ils doivent pouvoir acquérir des compétences parce que le domaine de la santé, c'est un domaine où les connaissances évoluent quotidiennement et les prestataires des soins, des services de santé doivent être à jour par rapport à leurs compétences. Et puis, évidemment, ils doivent pouvoir disposer des fournitures. Ils doivent avoir des équipements, des diagnostics et des traitements. Ils doivent avoir des infrastructures appropriées. Or, dans des hôpitaux publics, malheureusement, la plupart de ces choses manquent et vous avez des gens qui essayent de se débrouiller avec des moyens et finalement ça devient des soins au rabais et là ça expose la vie de nos compatriotes et la vie de nous tous hein, parce qu'en fait comme on le sait, les malades c'est tout le monde, hein. Les gens bien portants aujourd'hui ont été probablement des malades d'hier et ceux qui sont malades aujourd'hui seront peut-être en santé demain mais les gens bien portants aujourd'hui seront probablement des malades demain donc le malade, c'est tout le monde, c'est lui, c'est elle, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Et quand il y a des problèmes comme ça dans la qualité des soins de santé, c'est toute la population qui est exposée. Et il est important, effectivement, que l'État, par rapport aux hôpitaux publics, puisse mettre à leur disposition des moyens humains, mais aussi des moyens techniques adéquats pour leur permettre de fonctionner correctement.
Alors, il y a eu des recommandations en ce qui concerne les états généraux de la santé. Aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que l'application de ces recommandations est vraiment démise?
Alors, il est possible qu'il y a eu déjà un avant-projet de loi cadre de santé qui a été adopté, je crois, en 2010. Pour lesquels nous attendons que la loi soit promulguée. Parce que vous savez, le code sanitaire qui régit le fonctionnement du système de santé dans notre pays date quand même des années 50, hein, donc avant l'indépendance. Donc il est important que notre pays se dote effectivement du loi cadre qui a été une initiative louable hein, du gouvernement avec l'appui de ses partenaires, de l'OMS, avec la pleine implication des différents professionnels de santé qui étaient là et qui ont fait un bon travail. Et donc nous espérons vraiment que cette loi cadre de la santé puisse voir effectivement les jours et permettre la réorganisation
et le financement du système de santé dans notre pays.
Voilà, on va prendre Julien.
Un cadre innovant comme celui-là.
Alors, on va prendre Julien qui est à Guémena et Katongo à Bukavu. Et puis, on reviendra à vous, monsieur Franck Ndou, la Wesh, pour conclure. Julien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour la radio Tapi, bonjour en fait.
Vous avez la parole, comment vous commentez cette actualité?
Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. L'hôpital de Sotapener, c'est quelque chose de bon pour notre pays. Et je me pose toujours des questions. Qui a l'accès dans cet hôpital de Sotapener? Ce sont des ministres, des députés ou des riches? Cela est fait pour tout le monde. Celui qui est à l'Isala, ou à Mobayumbongo, ou à Kasumbalesa, ou à Aru, quel jour où il sera là pour prendre sa même la consultation? Je ne pense pas. L'hôpital de Sekatener a été bien équipé, modernisé, c'est qu'on dit. Leur personnel, ce sont les Indiens qui ne maîtrisent pas même la langue française ou Lingala. Est-ce que, à notre invité, nous les Congolais, est-ce que nous manquons de médecins? Je vois en Afrique du Sud, en France ou aux États-Unis d'Amérique, il y a des médecins congolais qui maîtrisent bien donc, la domaine. Mais je me pose la question. L'hôpital de Sekatener a été fait par des normes. Moi-même, j'ai pu toutefois ignorer. Mais pourquoi il y a des morts? Pourquoi il y a des morts? Et je demanderai à notre ministère de la Santé.
Voilà, merci, merci beaucoup, Julien. Vous reconnaissez tout de même qu'il y a quand même des ressources humaines importantes en RDC en matière de santé publique. Et c'est vrai, bon, il faudrait quand même qu'on puisse utiliser au maximum ces ressources humaines au lieu de les sous-utiliser. Voilà, merci beaucoup. Kasongo, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole.
Différents interlocuteurs. C'est Kasongo de Bukavu. Si je voulais intervenir, c'est en rapport avec la gestion et l'administration au niveau de nos...
Des hôpitaux publics.
Au niveau de la République, parce que moi, je n'ai pas dit ça, comme je parle de 50 années. La problématique, c'est pour ce qui concerne la gestion, pour les structures de santé, disons, normalement, je vais citer à 4 points. J'ai parlé d'abord de la définition des cadres organiques au niveau de, à tous les niveaux du ministère de la Santé. Et franchement, les cadres organiques sont mal définis, bien mal organisés. Deuxième point, c'est au niveau des sessions de gestion dans différents partenaires. Les différentes sessions sont faites de quelle manière par l'État, nous ne connaissons pas. Troisième niveau, c'est au niveau des signatures de contrats avec les différents intervenants partenaires. Ce sont les grands problèmes que nous avons. Et le quatrième niveau, je parlerai de la définition des procédures, des gestions et des instructions au niveau des structures. C'est à ce niveau-là que nous, on a situé la problématique de gestion au niveau des institutions de santé. Et si ces problèmes-là sont normalement résolus, bien définis, je crois qu'il n'y aura pas assez de problèmes à ce qui concerne la gestion
de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kasongo, d'avoir appelé. Nous revenons à vous. Franck Ndou Nawaij, en conclusion, je crois que l'idéal pour vous, c'est qu'il faut humaniser l'hôpital qui doit être la qualité donc au cœur du management hospitalier. C'est ça?
Tout à fait. C'est-à-dire que les hôpitaux ne doivent pas être des corps étrangers ou des mouroirs, comme le disait un compatriote, mon co-débatteur. En fait, les hôpitaux doivent être des lieux humains, c'est-à-dire où le malade se sent en sécurité, où ils sont respectés, où ils sont bien accueillis, où ils ont l'information, où ils ont la liberté de s'exprimer et où ils vivent de la continuité et de la sécurité de soins. Voilà, ça doit être des lieux vraiment de vie et non des lieux de mort.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, monsieur Franck Ndou Nawej. Nous rappelons que vous êtes chargé des cours à l'école de santé publique à l'université de Lubumbashi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous disons également merci à Sylvain Matundou qui a assuré la mise en onde de ce programme qui nous a été réalisé par Julie Feza Bongonda et Pierrot Delameji. Notez que cette émission vous a été présentée et coordonnée par J.R. Mugembo sous la supervision d'Elonard Moulamba. On se retrouve à la même heure donc demain pour un autre débat dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. À très bientôt.